Mardi 6 mars 2012, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous, de retour après une semaine d'absence qui était due à ce fort rhume qui me tenait depuis un certain temps et qui m'a rendu incapable d'animer avec passion, fougue et bonne humeur l'émission de la semaine dernière. Cette semaine, comme à l'habitude, je suis accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Et le menu qu'on avait prévu pour la semaine passée, ben, on le reprend cette semaine. Donc, en cours d'émission, on discutera avec Emmanuel Galland autour de son exposition de La Fontaine à Racine, en passant par Bossé et Talbot, qui est présenté à la Galerie Vue. On restera d'ailleurs à Vue, puisque Fanny Hénon-Lévy nous parlera de l'exposition de Nine Eyes, bon, je recommence, de Nine Eyes of Google Street View, qui est présentée avec également une exposition de John Raffman. On va aussi discuter avec José Landry-Sirois autour de l'exposition 3, qui présente ses œuvres ainsi que celle de Diane Landry et de Paryse Martin. Puis Raymond Poirier nous fera sa revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Une petite primeur sur ta revue de presse.
On va parler notamment d'enchères du côté international. Et de vente de tableaux assez onéreuses.
Voilà.
On n'en dit pas plus.
Simon Roy n'est pas disponible cette semaine, mais il a bien entendu quand même fait la sélection en art audio pour l'émission d'aujourd'hui. Il nous a choisi l'album Type Patch Anomaly de l'artiste Pablo Ribot. C'est un artiste argentin qui fait dans l'audiovisuel. Il est compositeur, producteur et guitariste aussi. Puis sa musique, c'est une musique électronique, électroacoustique et expérimentale. On en entend déjà un petit extrait. On va en entendre dans quelques instants. Simplement pour vous dire qu'il est très influencé par tout ce qui est avant-garde, jazz, glitch et autres. Ben voilà, on en écoute tout de suite. On écoute Zala de Pablo Ribot sur les ondes de CKRL. D'entendre un extrait de la pièce Zala de l'album Type Patch Anomaly de Pablo Ribot. Si ça vous intéresse, ben vous pouvez trouver le lien en téléchargement gratuit sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier sont déjà, je crois, sur Internet. Donc, si vous êtes rapide sur la gâchette, ben vous avez peut-être déjà en primeur les informations que Raymond s'apprête à nous livrer.
Oui, en fait, plusieurs nouvelles, notamment autour de remises de prix. Il y en a eu quand même pas mal dans les derniers jours, dans les dernières semaines, notamment un prix du gouverneur général en art visuel qui sera remis à Yana Sterbak. Alors, Yana Sterbak, une artiste de Montréal, je crois, en fait, du moins qui habite à Montréal, qui depuis plus de 30 ans, par ses œuvres, sculptures, vidéos, installations, performances, qui définit l'art contemporain, et les formes, des matériaux quand même assez inusités. On n'a qu'à penser notamment à la célèbre Vanity, une robe de chair pour albinos anorexiques qui proposait une réflexion impitoyable sur la condition humaine, qui a été récupérée d'ailleurs par certaines figures populaires de la musique pop.
Sinon, on la nommera pas.
On la nommera pas. Sa vision inédite aussi, telle celle d'un animal dans From Here to There, présentée à la 50e Biennale de Venise, renouvelle le rapport du spectateur à l'art. Mais voilà, donc c'est une faste carrière qui l'a amené à Toronto, New York, Barcelone, Paris et Montréal, qui sera soulignée donc avec ce prix remis à Yana Sterbak, donc prix du gouverneur général en art visuel. Et sinon, deux autres prix qui ont été remis récemment. La firme Giverny Capital, qui remet depuis quelques années un prix à un ou une artiste en art visuel du Québec. Et c'est un prix pour lequel ils ont été cherchés quand même un jury assez intéressant, là, des gens du Musée des Beaux-Arts de Montréal, de Québec, etc., etc. Et cette année, le jury a choisi de remettre ce prix à Pierre Allard et Annie Roy, à l'action terroriste socialement acceptable, qu'on connaît bien ici à l'aérospatiale, donc qui crée, on le rappelle, dans l'espace public, des œuvres et événements transdisciplinaires sous forme d'interventions, d'installations, de performances, de mise en scène réalistes motivées par le désir d'interpeller la population envers des causes sociales, environnementales ou patrimoniales, des causes toujours cruciales et préoccupantes.
Ben voilà, félicitations à eux.
Également, prix du calque qui a été remis, quand j'ai dit que j'avais beaucoup de prix cette semaine, on n'arrête plus. Ça, c'est le 26 février. Alors, c'est la meilleure œuvre d'art et d'expérimentation. Donc, prix du calque qui a été décerné cette année à Serge Clément pour son film d'Aurore. C'est un film qui a été conçu à partir de tirages photographiques pris en 2003 et 2006. Un court-métrage achevé en 2011 qui capte le lent mouvement de l'instant fugitif entre la nuit et le crépuscule dans 12 villes à travers le monde. Alors voilà pour les prix. Maintenant, une autre nouvelle, en fait, je suis tombé là-dessus, notamment sur le site de recrutement pour des artistes en art visuel. Donc, des réflexions face au Musée des Beaux-Arts du Canada. Enfin, il faut dire que ce musée est présentement en cours contre, justement, le regroupement ainsi que d'autres organismes de représentation d'artistes en art visuel. Et le tribunal a tranché, le tribunal fédéral a dit, regardez, vous avez négocié de mauvaise foi avec ces organismes-là et par extension avec les artistes. Et donc, le tribunal demande au musée de retourner à la table de négociation pour fournir aux artistes l'entente collective qu'ils attendent depuis déjà 9 ans. Alors, il faut dire, en fait, que ça fait un bon bout de temps, donc, la négociation entre les regroupements et le musée pour essayer d'établir un tarif minimal de redevance pour l'exposition et la reproduction des œuvres. Essentiellement, donc, le musée, en 2007, avait rompu les négociations, donc, ce qui a amené les organismes à aller en cours pour demander la poursuite. Le musée avait indiqué que, pour eux, comme les artistes étaient des travailleurs autonomes, ils n'avaient pas à négocier avec des regroupements, mais que ça allait plutôt être négocié pièce par pièce avec différents artistes.
Ben,
le musée évoquait la loi sur le statut de l'artiste, notamment, là, et il disait qu'il y avait un conflit entre cette loi-là et la loi sur le droit d'auteur qui, elle, reconnaît au regroupement d'artistes le droit de négocier au nom de l'ensemble des travailleurs autonomes. Finalement, le tribunal qui a été dans ce même sens-là et qui a dit, ben oui, effectivement, là, les regroupements d'artistes ont le droit d'aller négocier quand même le poids du nombre, notamment.
Ben,
et ça n'enlève pas la nécessité de négocier par la suite à la pièce. L'objectif de l'entente est essentiellement d'établir un prix minimal. Donc, le minimum syndical, entre guillemets, pour les redevances, pour la production et ensuite, évidemment, selon l'artiste, l'œuvre, etc., là, il y aura une négociation spécifique. Alors, ce serait intéressant de voir si le musée va faire appel de cette demande-là. Pour l'instant, il y a rien qui en est ressorti, là, mais la décision du tribunal est donc très claire. Là, le Musée des Beaux-Arts du Canada doit assumer sa responsabilité consistant à faire preuve de sérieux dans la négociation de conditions de travail équitables pour les artistes.
Bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle. Et on passe à l'international, tiens. Grosse acquisition du côté des musées britanniques, en fait. C'est la National Gallery et les Galeries nationales d'Écosse qui ont annoncé avoir réuni 45 millions de livres, donc c'est à peu près presque 71 millions de dollars canadiens, donc pour acquérir un chef-d'œuvre de la Renaissance, qui est un tableau du Titien, un tableau qui était en Grande-Bretagne depuis déjà à peu près 200 ans, mais qui appartenait à des collections privées.
C'est lequel?
C'est Diane et Callisto. Okay. Donc, un tableau très important selon les fonds d'acquisition, important d'ailleurs au point où, essentiellement, là, pour la National Gallery, on parle de presque la totalité de leur budget d'acquisition qui a été investi pour l'achat de cette seule toile-là. Mais une acquisition donc qui est disons très bien reçu de la part des institutions qui disent, regardez, c'est deux des plus importantes toiles au monde qu'on va pouvoir enfin présenter également ensemble, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Ben ouais.
Alors, ils s'en félicitent dans différents médias. Deux tableaux là, du 16e siècle qui dépeignent deux scènes de la mythologie grecque interprétées par le maître vénitien. Et enfin, puisqu'on parle d'enchères, on reste un peu dans le dossier. C'est Art Price qui a sorti son palmarès des artistes les plus vendeurs, entre guillemets. Et pour la première
année. Les plus
année,
vendables.
Les plus vendables, on s'entend. Alors, pour la première année depuis toujours, en fait, c'est deux artistes chinois qui se retrouvent en tête de liste, qui supplantent les habitués pourtant du haut du palmarès. On parle de Pablo Picasso et d'Andy Warhol, qui se trouvent toujours en bonne position. Mais cette année, c'est Qi Baishi et Zhang Daquang qui viennent passer là, en première place. Un peu à l'image, en fait, de ce qui se passe dans le milieu du marché de l'art en général, où la Chine a pris le haut du pavé en matière d'argent investi dans l'art contemporain. Alors, c'est un peu un rapport de cause à effet. Il y a plus d'argent qui vient de ce pays-là, donc nécessairement, ces artistes sont aussi en meilleure position là, sur ce type de palmarès-là. C'est des ventes qui sont faites, d'ailleurs, à 99% sur les marchés asiatiques, là, Zhang Daquang et Qi Baishi. Donc, c'est pas des artistes qui sont du tout vendus en dehors de l'Asie, paradoxalement. C'est pas des artistes qui sont nécessairement ultra connus non plus à l'extérieur, justement, de cette région-là, ce qui montre aussi peut-être le clivage entre les différentes régions là, au niveau du marché de l'art. Zhang Daquang, qui est un peintre respectueux des traditions de la peinture chinoise, là, qui occupait la troisième place en 2010. Et sinon, si on parle de Picasso, en fait, c'est la première fois d'histoire récente où ses ventes baissent de manière générale. Et c'est le seul, d'ailleurs, dans le top 10 cette année qui voit son total de ventes baisser. Cela dit, il a encore toujours une excellente cote, mais tout de même, là, on voit peut-être un ralentissement là, dans les ventes de Picasso comparativement à d'autres artistes.
Bon, les acheteurs se sont calmés pompons sur son cas.
Voilà, peut-être. Ben, on verra en 2012.
Merci beaucoup, Raymond.
Ça fait plaisir.
On t'écoute vendredi de 17h30 à La Vie en BD.
Oui, comme à l'habitude, avec des entrevues avec des BDistes de Québec et du Québec.
Voilà, ben merci, Raymond. On s'en va en pause audio. On écoute Switch on Night in Morocco. Retour, on discute avec José Landry. C'est roi.
Oh.
toujours l'aérospatiale. On vient d'entendre un extrait de la pièce Switch on Night in Morocco. Et comme je le disais juste avant, on rencontre José Landry-Serrois. Bonjour José.
Bonjour Julie.
Tu viens pour nous parler de l'exposition 3 qui est présentée à la galerie Michel Guimond. Pour cette exposition-là, en fait, est maintenant représentée par la galerie Michel Guimond.
Tout à fait.
Puis tu as demandé à Paris Martin et à Diane Landry de faire cette exposition-là avec toi, c'est ça?
Exact. En fait, la genèse aussi, on fait un peu une petite histoire pour comprendre le fil de ce ralliement. Michel Guimond m'a proposé une exposition au courant de l'année et m'a demandé avec qui j'aimerais présenter mon travail et avec qui je voyais, avec le travail de qui je pouvais imaginer le mien. Dans les artistes de la galerie, puis j'ai osé lui demander de présenter mon travail à côté de deux artistes pour qui j'ai énormément d'estime envers elles, mais envers leur pratique et leur engagement dans le milieu artistique ici, de Québec.
Donc là, tu as demandé à Paris Martin, à Diane Landry, et t'ont dit oui.
Exact.
J'imagine que tu devais être quand même touchée, là,
de dire
waouh, tu sais, ils acceptent, puis...
Tout à fait. Puis, comme on parlait plus tôt ensemble, en fait, on ne s'est pas donné une thématique de travail ou de ligne directrice, conductrice, j'oserais dire. En fait, je pense qu'on avait cette certitude, on avait cette certitude et cette confiance qu'en regroupant notre travail, il y avait un écho, puis ça faisait du sens, tout simplement.
Puis c'est une émotion, oui, je fais un lapsus qui est quand même assez à propos, là. C'est quand même une exposition qui, je pense que tu disais tout à l'heure, là, les gens vivent beaucoup d'émotions dans votre expo.
Mais je pense qu'on entre dans un espace où le dispositif de présentation des œuvres est vraiment réussi. Le montage est à la fois sobre et baroque, où on entre dans un univers onirique, généreux. J'oserais utiliser le mot offrande, où il y a quelque chose de très généreux et qui porte aussi vers un certain recueillement.
Parce que de part et d'autre, en fait, vous travaillez toutes quand même à divers degrés sur la question de l'intimité, sur la question de soi-même dans votre travail.
De l'intuition, Même si, je veux dire, on connaît les trois corpus, c'est tout à fait différent, mais où le sens se fait, je crois que c'est dans la foi du travail, dans l'engagement, dans la persistance, puis dans une singularité qui est vraiment palpable de corpus, de travail, en fait.
Tu parles d'engagement. Je pense qu'un engagement, pour moi, ça s'inscrit un peu dans le temps aussi, dans le sens où toi, bon, tu travailles des motifs que tu reprends, tu collectionnes également. Diane Landry prend des photos à certains temps, je pense des fois c'est à une minute ou à certains temps. Paris Martin, elle aussi, s'engage énormément dans ses dessins, dans ses sculptures qui sont très, très détaillées. Là. On voit ça vraiment dans les trois. Là.
Mais je pense que, de toute façon, peu importe quand on choisit de faire une carrière puis qu'on est engagé et qu'on est passionné par ce qu'on fait, ben ça se ressent puis c'est perceptible. Voilà.
Excuse-moi. J'ai eu la grippe la semaine dernière. C'est là encore. Bon, voilà. Paris Martin, en fait, j'ai lu, je crois, dans Le Soleil, que Paris Martin parlait de votre travail à toi, Diane Landry et elle, comme étant évoquant le travail des religieuses, le côté vraiment de la foi. Tu penses quoi de ce commentaire-là qu'elle a fait?
Mais je pense que, en tout cas, de mon côté, si on fait un lien, bon, avec l'accumulation, avec la collection, c'est qu'on va travailler justement à poser, c'est toute une série de petits gestes dans un rythme qui est propre à chaque personne par rapport à son travail, mais qui s'accumule, puis ben, ils tissent quelque chose, tu sais. Quand je parle de persistance, de labeur, d'acharnement, de foi, ben, c'est là où l'implication est chacune à notre façon dans un quotidien où on cumule des débris d'expérience, de travail, d'impression, d'intuition. Puis, à partir de là, ben, l'œuf peut se construire.
Voilà. Je pensais qu'il y a besoin aussi là, de créer de part et d'autre avec ça. Là.
Tout à fait.
Dis-moi, José, tu travailles, bon, ça fait longtemps qu'on te connaît pour ton travail en dessin depuis un certain temps. Tu travailles aussi le papier en relief, en bas-relief. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler le papier comme pas comme sujet, mais comme motif ou comme...
En fait, les dessins, ben, les pièces qu'on peut voir à la galerie qui sont finalement... des dessins, pour moi, des dessins en volume.
Okay.
Finalement, le papier vient apporter une couleur qui forme le dessin. En tout cas, j'essaie de pousser cette matière-là qui, pour moi, me parle beaucoup par sa fragilité, par tout ce que les traces, les empreintes peuvent laisser et qui forme à la fois un dessin sur cette matière-là.
Puis pour toi, le papier, tu parles de sa fragilité, qui porte des traces un peu comme l'humain aussi.
Aussi, oui.
Puis dans cette exposition-là, en fait, tu as intégré le motif des papillons, en fait, comme en origami. Je pense que tu m'as... Quand
c'est
tu m'as la galerie, tu as reçu des papiers, comme des papillons comme ça. Hein?
Oui, c'est une histoire, en fait. Une jeune femme que je ne connais pas a, pendant une année... fait des fleurs et des papillons pour préparer son mariage. Et alors, il y avait quelque chose de très contemplatif dans le travail, de aussi de l'ordre, on peut parler encore des religieuses, quelque chose de broder des petits objets pour laisser une empreinte du temps dans l'attente d'un événement. Puis, suite au mariage, à la cérémonie, les objets,
le papier,
elle n'en avait pas besoin d'en témoigner, en tout cas. Et on m'a donné ces matières-là qui sont restées à l'atelier, puis qui, comme une glaneuse, j'ai gardé ça dans des boîtes en me disant peut-être que ça allait servir plus tard. Puis c'est devenu une matière pour raconter des choses ou pour dessiner aussi des choses.
Ça devait être intéressant quand même de voir que ça avait été utilisé pour le but pour lequel ça a été utilisé. Il me semble que ça fit un peu là, dans ta démarche.
Pour parler,
aussi,
pour parler d'amour, pour parler de sentiments, pour aussi représenter des archétypes avec le cœur qui revient souvent, qui est comme un symbole, un archétype très universel qui est équivoque, qui s'ouvre, qui se referme sur toute une histoire qu'on peut raconter.
Puis peut-être, parce que là, on parle de ton travail, j'aimerais ça aussi qu'on parle peut-être du travail de Paris Martin, parce que Paris nous présente une série de dessins et de sculptures en bronze qui présentent des chiens avec des plantes. Peux-tu nous parler un peu de ce qu'elle avait en tête?
Je ne sais pas ce qu'elle avait en tête, ce qu'elle avait en tête, mais c'est complètement fabuleux ce qu'elle a dans cette tête. Dans sa tête, en fait, elle a fait couler des bronzes qui sont, ça a été dit par divers, via d'autres médias, mais qui sont vraiment d'une étrangeté. On les voit, puis on se dit, est-ce que je les ai déjà rencontrés? Est-ce que j'ai rêvé à eux? Mais non, c'est comme une drôle de... C'est vraiment une rencontre avec... ces animaux qui sont à la fois ludiques, à la fois baroques, à la fois vulnérables, à la fois étranges.
Ouais. C'est des créatures hybrides quand même, des chiens avec des pattes ou une queue en branches ou en fleurs.
Ouais, avec en fait, sur leur tête, on retrouve des prolongements, des extensions qui ramènent aussi à l'histoire, à des histoires quotidiennes. Le bonnet d'âne, en tout cas, qui nous ramène à notre histoire.
Ben oui, carrément.
Et qui nous permet de se raconter une histoire.
Ben oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'universel aussi. On voit tous le bonnet de laine comme ça sur la tête. On peut penser à différentes histoires qu'on a connues. On peut penser à nous,
nous également.
Oui, effectivement, c'est vrai.
Et les dessins qui sont d'une force et d'une fragilité à la fois, parce que quand on regarde les dessins, c'est fabuleux le dessin, parce que c'est près de l'écriture aussi. Moi, le dessin, ça me fascine, parce que c'est comme l'écriture où c'est très, c'est intrinsèque à chaque personne, la trace que la main d'écriture que chaque personne possède est fabuleuse. Puis bon, dans ces dessins que Paris nous présente, il y a aussi de l'aquarelle. Alors, des couleurs toutes tendres, mais des animaux dans des contextes assez farfelus. Ouais, il y a quelque chose de très ludique, kitsch, mais beau, rococo, baroque.
Ouais, c'est très féminin en même temps, là. Puis Diane Landry, elle, habituellement, on la connaît beaucoup pour son travail, soit avec les machines, tout ça, cinétique, etc. Ouais. Là, elle est vraiment allée dans une autre direction quand même pour ce qu'elle propose.
Pour Diane, c'était un défi aussi de présenter son travail en galerie privée.
C'est la première fois, je pense.
Oui, exact. Les œuvres qu'elle nous présente sont issues de performances, mais on parle d'œuvres vraiment autonomes où elle nous présente elle, mise en scène, un corps qui se multiplie, avec, on pourrait dire exposant absolu, parce que ça se transforme, ça se mute, puis en fait, il y a quelque chose aussi de fantomatique, fantasmagorique, de très, très, très touchant, parce qu'on se demande s'il est en train de rentrer ou de sortir dans son corps. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit? Est-ce que c'est quelqu'un qui meurt? On parle de paradoxe. C'est vraiment très touchant. Et c'est un travail photographique qui est très près de la peinture. C'est un rendu pictural très, très, très fort. Des couleurs tout en lumière, des textures.
On dirait que la lumière est particulièrement
incroyable.
Touchante, en fait, cette lumière-là.
Oui. Puis les encadrements aussi, je me permets de parler du travail d'un nouvel encadreur qui travaille pour nous à Québec, François Simard.
L'artiste François Simard
qui fait l'encadrement. Qui fait l'encadrement, qui rend, parce que je pense que ça mérite d'être dit, qui rend le travail vraiment... notre œil est porté à regarder le travail d'une façon qui rend justice à ce grand
comme
travail.
Comme si le cadre était un écrin, en fait, dans lequel, pardon, c'est un nom masculin.
Dans le sanctuaire, là. Ouais.
C'est assez rare, hein? Il me semble que ton travail, habituellement, il n'était pas nécessairement encadré, mais là, est-ce que c'est quelque chose que tu tends à faire de plus en plus?
Quand je présente mon travail en galerie, puis c'est ça aussi, bon, je parlais des photos de Diane et de Paris qui sont comme des espèces d'extraits, on parle de captures, dans les photos de Diane, des captures de vie, puis...
De tourment intérieur aussi, on dirait presque.
Puis le cadre ne vient pas confiner cette image-là, ça reste très ouvert, puis ça embaume la galerie.
Eh bien, José Landry-Sirois, merci beaucoup.
Grand plaisir.
Écoute, tu me donnes envie de retourner voir l'exposition à la lumière de tes commentaires.
Je pense que c'est vraiment une exposition juste, pleine de générosité et d'humilité.
Bien, merci beaucoup. Donc, l'exposition se poursuit. Ça fait pas tellement longtemps qu'elle a commencé. Donc, José Landry-Sirois, Diane Landry et Paris Martin qui présentent l'exposition 3 à la Galerie Michel Guimond jusqu'au 25 mars. Donc, merci José.
Merci à toi.
On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Fanny et Non-Lévis sur les ondes de CKRL.
Depuis 1973, CKRL demeure un leader dans la découverte et la promotion de la relève artistique. Achetez votre carte de membre au coût de 25 $ ou faites un don pré-radioton de 10 $ ou plus avant le 30 mars et courez la chance de gagner un des deux prix suivants. 150 $ à la boutique Le Pédalier. 150 $ chez Sillon le disquaire. Adhérez en téléphonant au 418-640-2575 ou en ligne à sillon.com. Parce que votre soutien au 89.1 est essentiel.
Chaque mardi et vendredi, les soirées de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Semblable à l'image du 89.1, le Bal du Lézard fait dans la diversité colorée. Un lieu de rencontres culturelles branchées, art et musique. un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les soirées du mardi et du vendredi à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 88 529 3829.
À ne pas manquer en mars à l'Ampli Québec. Préparation au studio avec Stéphane Rancourt.
Le souffle sonore avec Marie-Louise Bourbeau.
Atelier de rédaction de demandes de bourse avec Guillaume Sirois et Geneviève Savoie.
Jeu à la caméra avec Jean-Pierre Bergeron.
Saisir l'univers d'une chanson avec Serge Lacasse. Le week-end d'Éric Goulet.
La relation artiste-gérant avec Hubert Mention. Et enfin, jeu d'écriture avec Reggie Brassard.
AmpliDeQuébec.qc.ca 88-977-9764.
L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1.
Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Jumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. CKRL. Présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 88 529 3829.
Vous, on a dépassé l'heure pile. Vous écoutez toujours l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Et je suis rejointe par Fanny Elon-Lévy. Bonjour, Fanny.
Salut, Julie.
Ça va bien?
Oui, et toi?
Oui. Tu es allée faire un tour à vue cette semaine et la semaine passée.
J'ai été voir, en tout cas, ça a commencé le 17 février. C'est John Raffman à vue photo. Donc, c'est l'exposition qu'il nous propose, c'est « The Nine Eyes of Google Street View ». J'ai essayé de mettre l'accent.
C'était très bien.
OK. Donc, The Nine Eyes, on comprend bien que c'est en référence aux 9 caméras directionnelles qu'on trouve, qui se trouvent sur chaque véhicule de Google qui véhicule à travers la planète. C'est une exposition qui soulève pas mal de controverses puis de questionnements autour de l'image, autour de l'esthétique de l'image, autour du ready-made de l'image puisque c'est des captures d'écran. C'est un artiste qui va chiner, qui va chercher, fouiller parmi toute la banque de données et d'images des Google View, des images fortes, des images subversives. On est sur des situations improbables avec des routes, un animal qui apparaît, des prostituées,
papillon.
C'est ça.
Parfaitement au milieu, il y a un papillon.
Un couple qui, cette image-là, en l'occurrence, elle n'est pas dans l'exposition, mais si on va sur le site de John Raffman, on peut voir tout le panorama des photos qu'il a sélectionnées. Lui, il s'amuse aussi sur ces images à y introduire l'iconographie et le compas directionnel de Google. Je pense que c'est une volonté aussi de marquer le poinçon Google. C'est ça, mais en même temps, je pense qu'il travaille l'image comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté robot. spontané qu'il veut garder comme ça. C'est une cartographie. Donc on n'est pas dans l'image, dans le photo reportage. On n'est pas dans l'œil humain. On est dans le robot. On est dans cette. Et si vous allez voir l'exposition, c'est flagrant. On est entre fiction et réalité.
Ouais.
On a une impression de fiction. Mais mon Dieu, c'est quoi ces images-là ? Est-ce que on est dans du cinéma ? Est-ce que c'est de la mise en scène ? Est-ce que on joue avec ce regard qui est complètement désensibilisé d'un regard humain, mais complètement robotique ?
C'est un regard complètement objectif. En fait, là, c'est une voiture qui circule dans une rue à un moment donné. Puis ben, il y a des choses qui se produisent.
C'est et puis parfois des situations assez improbables.
Ouais,
c'est,
ça peut être trash aussi.
Ça peut être assez trash. Et puis on se pose la question, ça devient quoi l'image ? C'est quoi aussi ce monde d'image dans lequel on est et qui on est complètement sous surveillance. Donc il y a plusieurs notions. Il y a la notion de surveillance, il y a la notion de l'esthétique de l'image qui est en référent au net art avec la robotique, avec le côté amoral. Son travail a été beaucoup critiqué sur sa facette amorale, mais en élargissant la moralité, on pourrait aussi remettre en question le projet Google lui-même, qui est pour moi un projet quand même très intéressant, sachant que là, aujourd'hui, c'est d'actualité, puisque Google lance ses machines sous la mer.
Okay.
Donc, va nous faire une cartographie sous-marine. Donc, c'est quand même, c'est quand même assez taré, cette affaire-là.
Donc, c'est intense.
C'est assez intense. Et puis, c'est pas sans rappeler les ready-made de Marcel Duchamp. Là, on y revient comme une espèce de boucle qui tourne sur elle-même.
Mais depuis qu'il les a fait, on y revient. Hein.
On y revient. C'est presque inévitable. Marcel Duchamp, rappelons-le, qui prenait des objets fabriqués et qui les mettait en scène et en faisait...
Des œuvres d'art.
Donc là, on a des images qui ne sont pas des œuvres d'art, qui sont des images témoins de notre réalité, témoins de notre réalité contemporaine, de notre quotidien à travers le monde, et qui sont photographiées, placardées. Voilà ce qu'est le monde, sans commentaire, sans rien. Et puis, bon, la fiction se poursuit quand vous vous asseyez sur le petit banc. Vous mettez les écouteurs sur les oreilles, puis là, on nous propose un petit film. Donc, il y a comme une. On est encore une fois entre fiction et réalité, puisque John Raffman fait tout un récit autour de la recherche de cette femme aimée qu'il a perdue, qui ne voulait jamais se faire photographier et qu'il cherche à travers ces images prises par les Google Machines.
Ça ajoute une intensité, en fait, qui est nécessaire à l'exposition, finalement.
Oui, puis ça ajoute aussi cette perte de repères que nous propose l'image. Ben voyons, ça arrive hein, de tous ces cela.
C'est un peu tannant.
Fait que c'est ça. John Raffman, moi, il m'a pas mal secoué. On peut pas dire que ce soit l'expo esthétique qui va, mais au niveau du sens. Ça va chercher quand même un sens profond.
Mais c'est intéressant parce qu'il détourne carrément la fonction de l'image. La fonction de ces images-là de Google Street View, c'est de nous montrer justement, tu le disais, c'est la cartographie. Mais là, soudainement, on regarde pas les lieux, on n'avance pas. Ce qu'on voit, c'est les gens, ce qu'on voit, c'est les situations. Ce qu'on voit, c'est le côté improbable aussi de ça, de dire, ben voyons donc, tu sais, c'est le papillon. Mais pour moi, c'est un emblème, tu sais, que le papillon soit arrivé en plein milieu de la caméra, à ce moment-là, il y a quelque chose quand même de
ben, il recrée,
fascinant.
Lui, il le dit d'ailleurs, il le dit, l'édition, elle fait partie intégrante du processus artiste, de son processus artistique, c'est-à-dire que, évidemment, son travail est très, très critiqué, très controversé, parce qu'on pourrait se dire, oh, ben, attends, il se contente finalement d'aller chercher des images fortes et puis de créer le boom autour de ça.
Ouais.
Mais en même temps, il y a tout un travail de choix
choix des photos, de construction des séquences dans l'exposition, mais aussi sur son site. Sur son site, tu trouveras pas la quantité. Il met pas toutes ces photos non plus. Donc, il y a vraiment un travail au niveau de l'édition et des choix artistiques.
Puis ce qui est fascinant aussi, c'est le temps qu'il doit passer à chercher.
Alors ça,
j'étais au vernissage, puis le commentaire que j'entendais beaucoup, c'est aïe, tu sais, ça a dû être long. Il y a quand même une volonté là, derrière ça qui est incomparable.
Ben, je pense que ça le fait sourire. Je lisais une entrevue justement, puis c'est inévitablement la question qui ressort, c'est combien de temps, c'est quoi le temps que vous passez à aller chercher, puis c'est quoi l'intérêt de faire ça. Et lui, il explique, il a fait des études de philosophie, en art visuel également, et je pense qu'il a une fascination pour cette cartographie sociale, géographique, humaine. Il y a là, quasiment en direct, la possibilité de voir ce qui se passe n'importe où sur la planète, avec 9 caméras qui montrent ça à 360 degrés. Fait que c'est quand même, il y a une fascination, puis une fascination aussi de ce qui peut se passer dans un instant T. Tantôt des gens qui vont faire coucou à la caméra, tantôt des gens qui se font surprendre, qui se font voler aussi leur réalité. Fait qu'il y a toutes ces notions-là qui sont vraiment intéressantes puis qui se dégagent de cette expo-là.
Donc une réflexion quand même très riche au final.
Tout à fait.
Donc t'as apprécié?
Ah, j'ai aimé ça. Ah oui, j'ai vraiment aimé ça. Je vous le conseille. Et puis, tant mieux si ça vous dresse les poils sur le corps. C'est fait pour ça aussi. Je trouve que une expo réussie, c'est ça. Quand ça va chercher, remuer quelque chose à l'intérieur. Si ça dérange, tant mieux aussi. Ce qui est drôle aussi, une anecdote, c'est que quand on a une paire de fesses, et puis, bon, bah, généralement, les visages sont floutés. La paire de fesses normalement devrait être floutée, sauf que les machines floutent de façon systématique les chevilles des fait que les fesses sont
les fesses on voit pas le visage puis les chevilles.
C'est quand même assez de la petite anecdote, mais comme c'est traité par toute une machinerie, là encore on est en plein, on nage dans la fiction là. Une paire de repères avec ça.
Mais Fanny et non Lévi, merci beaucoup.
Merci à toi, Julie.
Donc, l'exposition John Rathman, The Nine Eyes of Google Street View, est présentée à vue jusqu'au 18 mars. On s'en va en pause, on écoute Folk Intervenido sur les ondes de CKRL. Thank you. vient d'entendre l'extrait de la pièce « Folk Intervenido ». C'était une pièce de Pablo Ribot tirée de l'album « Type Patch Anomaly ». C'est les liens pour le téléchargement gratuit se trouvent sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Vous pouvez également trouver l'émission en balado-diffusion, les derniers communiqués de presse, les informations sur l'actualité en art visuel à Québec. Et on était à vue il y a quelques instants. On y reste pour discuter de l'autre exposition qui est présentée à vue, celle d'Emmanuel Galland. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, on s'entend.
Oui, on s'entend très bien, d'ailleurs, même sur le téléphone cellulaire, là, tout est beau.
Bon.
Donc, à vue...
Allons-y, je suis sur le grill.
tu nous présentes l'exposition de La Fontaine à Racine, en passant par Bossé et Talbot. C'est une exposition de photographie où tu présentes des enseignes, des artères commerciales de Chicoutimi. Pourquoi tu as eu envie de traiter de ce sujet-là?
OK. C'est-à-dire que moi, je suis un amateur des enseignes. Okay. Des enseignes lumineuses commerciales, là, qu'elles soient au-dessus des magasins de proximité, des quartiers ou sur nos routes, etc. Puis je me suis retrouvé en 2008-2009 en résidence d'artiste au Centre d'artistes de l'Aube, à Chicoutimi.
Ouais.
On appelle aussi des fois ville de Saguenay. Et puis au LOB, le mandat qu'on m'a donné, le mandat de cette résidence, c'était de sortir de sa démarche artistique.
OK.
Alors moi, auparavant, on savait un petit peu que je faisais de la photo. Sur le moment, au début de mes 6 semaines de résidence, je me suis interdit de faire de la photo. Et j'ai fait d'autres choses, puis j'ai exposé d'autres choses. Mais ça me brûlait d'envie de réaliser cette série de, moi j'appelle ça des portraits, hein, des portraits de, donc ces grands panneaux, là, verticaux, qui sont au bord des routes, qui annoncent les centres d'achat. Il y a de nombreux centres d'achat, entre autres sur le boulevard Talbot, quand on arrive à Chicoutimi.
Ouais.
Et donc, je les ai captés sous une forme de marathon, là, avec le coordonnateur du LOB en voiture. On a fait un marathon en quête, en cueillette de photos, là, de capter tous ces panneaux-là.
Donc, tout ça dans une même soirée?
Pardon?
Tout ça dans une même soirée?
En une à deux soirées, une soirée et demie, si tu veux.
Okay.
On a attendu mon protocole. Le protocole que je me suis donné, c'est qu'il fasse nuit. À ce moment-là, on était en... Et j'attendais aussi qu'il y ait de la neige.
Okay.
Donc, il y a une certaine uniformité, quand même, dans les images. Donc, il y a eu de la neige seulement début décembre, et à ce moment-là, Chicoutimi, il fait nuit à 4h de l'après-midi, donc les gens rentrent chez eux. Et puis, on a pris la voiture et on a fait une grande virée, comme un rallye. Tu sais, un rallye, on doit trouver un élément qui nous mène élément, et pour gagner quoi que ce soit. Là, en l'occurrence, j'avais rien à gagner, sinon qu'à réaliser cette série-là de 28 photos. Qui partent donc du boulevard Talbot, mais qui rentrent aussi dans Chicoutimi puis aux alentours.
Puis on se rend aussi là, au centre-ville, là. Je pense à l'enseigne de chez Georges, par exemple.
Oui, ben ça, c'est le grand classique. C'est pas la première fois que j'allais dans la région du Saguenay. Là, j'avais exposé à Langage Plus dans les années 90, à Séquence, qui est un centre d'artistes spécialisé en photo. Et puis j'étais allé, j'ai des amis là, à force là-bas, à Sagami aussi. Je sais pas si tu connais le centre d'artistes en imprimerie numérique à Allemagne. Et donc, je sais plus où j'en suis.
Ben regarde, je vais te poser une autre question. Tu as décidé d'appeler l'exposition Totem.
Ah,
c'est
oui.
Quand même pas un titre. En fait, Totem, attends, je suis mêlée, là, l'exposition. Ça...
Ben, c'est ça, tout le monde se mêle, mais le titre de la série des 28 photos, donc c'est les photos qu'on trouve.
OK, c'est le titre de la série qui s'appelle Totem.
À Québec, en ce moment. Le titre de la série, c'est Totem, au pluriel.
OK, c'est ça.
Pour les 28 photos. Mais il y a un petit vidéo aussi avec des portraits qui défilent.
Oui, oui, oui.
Là, lui, je l'ai appelé... comment je l'ai appelé? C'est pas le cas. Non, c'est le porte-drapeau.
OK.
Non, excuse-moi, je suis mêlé. C'est l'homme sandwich.
Oui,
j'ai
c'est
eu
ça.
Tellement de je suis désolé, j'ai eu tellement de difficultés à me décider sur mes titres. Et comme on avait différentes pièces dans l'exposition... là, je me suis dit, je vais faire un gros titre, c'est aussi bête que ça, c'est une fantaisie, un titre très long et toujours écrit en majuscule, donc qui est le suivant, De la Fontaine à Racine, en passant par Bossé et Talbot. Et ce titre-là, avant de répondre à ta question sur la question des totems, c'est que c'est le nom des rues, évidemment.
Mm-hmm.
C'est pas l'auteur Racine, c'est pas l'auteur La Fontaine, et puis bosser, on sait pas c'est qui, Talbot, c'est peut-être un entrepreneur, etc. Mais c'était pour personnaliser, pour humaniser ma série qui présente donc ces. C'est, bon, je dirais toujours des portraits de, d'enseignes lumineuses verticales. Hein, et pour indiquer aussi le parcours qu'on a opéré dans la ville. Totem, il m'est venu assez vite et je le trouvais cliché comme titre pour la série des 28 photos. Mais Totem, pour moi, ça disait ce que ça disait. Un totem, pour moi, c'est une multi-iconographie. Un totem, pour moi, c'est un poème. Je ne suis pas un spécialiste en art autochtone, art amérindien, mais ou des Premières Nations, dépendamment comment on les nomme. Mais je voyais en tout cas formellement, évidemment avec la verticalité, un lien entre les totems et ces panneaux lumineux commerciaux. Et puis je voyais aussi que vous étiez chargé de différentes choses. Les panneaux, si tu les regardes dans les photos à l'exposition, c'est des couleurs différentes, vibrantes, une multitude de typographies. C'est du non-sens au niveau de l'esthétique graphique. Là, pour tous les graphistes professionnels, il y a trop de mix.
Ouais.
Et il y a une accumulation de noms de famille aussi, parce que dans ces centres d'achat, il n'y a pas juste des McDo ou d'autres marques bien connues, hein, des corporations multinationales, il y a aussi beaucoup de commerces de proximité. Donc, souvent, c'est le nom de famille qui donne le nom au commerce.
Donc, alors, là, la dimension totem aussi s'incarne de cette manière-là.
Absolument, comme une accumulation là, de sens.
Puis, ces enseignes-là, bon, c'est sûr qu'il y a un côté catch, on peut pas passer à côté, on regarde ça, on a un sourire, des fois on fait un retour dans le temps, mais on sent pas que tu as eu envie de rire de ça, au contraire, on dirait que tu as eu envie d'en souligner les qualités formelles ou encore d'en souligner la poésie, je me trompe?
Ben oui, parce que pour moi, oui, on peut les regarder du coin de l'œil kitsch, mais ils sont là, ils sont bien là. Et il y a personne qui, tu sais, aujourd'hui, on fait une pétition pour à peu près n'importe quel sujet. J'exagère à peine, mais il y a personne qui va les plastiquer, là, qui va poser une bombe pour les enlever. Ils sont ancrés dans le paysage. Ils sont dans notre patrimoine urbain. Puis pas seulement à Chicoutimi, évidemment, mais là, moi, c'est mon modèle. Chicoutimi, c'est mon espace d'exploration. Donc, on parle de Chicoutimi. Mais donc, on peut les regarder de façon tout à fait kitsch, ou des hérésies, quasiment une hérésie graphique multipliée, démultipliée un peu partout sur les grands boulevards. Mais aussi, pour moi, tout d'un coup, je les ai sublimés. Et en jouant justement à l'artiste touriste ou au touriste artiste, hein, quand on est dans un nouveau paysage, un nouvel environnement, on voit des choses que les gens du coin ne voient plus à force de les voir.
Ouais, c'est ça.
On comprend. Hein. Et là, je me dis, mais c'est, pour moi, c'est comme des monuments, c'est comme des sculptures publiques. Ils sont là, ça pourrait être un parterre de fleurs, on a déjà vu ça, des parterres de fleurs kitsch aussi, là, pour le coup, où c'est écrit le nom de la ville en fleurs,
ouais.
Et puis en bosquet, puis bienvenue à je sais pas quoi. Mais moi, je les ai vus comme des joyaux, comme des bijoux, qui disaient beaucoup, à livre ouvert, j'exagère à peine, encore une fois, à livre ouvert sur ce qu'est la ville, avec ces graphismes-là qui ont l'air datés des années 70, soit un peu des années 80, des drôles de logos aussi. Mais donc, je ne me suis pas permis de les juger. Je me suis dit, moi, s'il y a quelque chose à retenir, entre autres de Chicoutimi, je parle de paysage, de ce patrimoine-là, bah, plutôt que de regarder les vieilles pierres, la cathédrale, par exemple, j'habitais juste à côté à ce moment-là, proche de la rue Racine, dans le vieux Chicoutimi, je vais m'arrêter sur ces artefacts-là.
Mais en même temps, c'est ça, tu parles d'artefacts, on est vraiment ancré dans le patrimoine, mais ça pose quand même un constat un peu déprimant là, sur l'urbanisme nord-américain.
Ah oui, mais c'est d'autant plus déprimant que j'en discutais au vernissage aussi, c'est que ces panneaux-là, aujourd'hui, on les retrouve dans tout l'Occident,
ouais.
Et voire même en Asie. Alors, ils sont au bord de nos routes. Ça a fait des débats au Québec, même il y a 2-3 ans, il y avait des reportages sur Radio-Canada et sur la question de défigurer nos paysages. Il faut aussi protéger nos paysages. Que le patrimoine, aujourd'hui, il est matériel et immatériel, mais les paysages font partie de notre patrimoine. Alors, et on réalisait que un panneau publicitaire, c'est un billboard, donc quelque chose de plus impressionnant que ce que moi j'ai collecté. Ça peut rapporter au village à côté, la petite ville, 25 000 $ par année.
Ouais.
Et ça, dans le budget d'une petite ville, ça compte énormément.
Oui, c'est beaucoup de
Alors, il y a toujours des raisons pécuniaires comme ça. Et ce qui est fâchant, à la limite, c'est que on trouve ça partout en Occident. Les gens me disent, ah oui, au départ, moi aussi, j'avais le cliché de, ah, c'est un territoire typiquement nord-américain. C'est, moi, je suis né en Europe, ça fait 22 ans que je vis au Québec, à Montréal. Mais j'ai toujours un petit regard un peu décalé, là, des fois. Mais là, je dis, non, c'est pas le cliché. Que si je retourne en Europe, même en zone rurale, ou zone périurbaine, évidemment, mais en zone rurale, on trouve d'énormes panneaux et des fois on peut penser que oui, ça défigure le paysage. Et déjà qu'on reçoit, c'est que ça a déjà été calculé, il y a des statistiques hein, sur les messages publicitaires qu'on reçoit chaque jour à la radio, à la télé, dans les journaux, et c'est aussi au bord des routes. Hein, on reçoit tous ces messages-là. C'est déprimant, mais pour moi en même temps, je reste sur l'idée que je sublime ces panneaux-là parce que pour moi ils sont daté, j'ai pas fait de photos de panneaux McDonald's par exemple. Il y a bien d'autres panneaux à Chicoutimi que celui-là. Et il marque quand même un temps.
Eh bien, Emmanuel Galland, merci beaucoup.
On s'arrête là, non?
Oui, c'est déjà la fin de l'émission. Je vais m'empresser à terminer. Donc, merci beaucoup, Emmanuel Galland.
Merci à toi, Julie. Bonne soirée.
L'exposition de La Fontaine à Racine en passant par Bossé et Talbot est présentée à vue jusqu'au 18 mars. Avant de terminer, juste un petit calendrier des événements cette semaine. Il y a quelques vernissages, dont celui de Fanny Ménard qui aura lieu jeudi le 8 mars à Morgan Bridge. Elle nous présente l'exposition Flamant Rose versus Gros Méchant Rouge. Vendredi 9 mars, ce n'est pas une exposition. Pour ma part, je l'attendais depuis un certain temps. Donc, c'est le vernissage à l'exposition de Doyon Rivet à la bande vidéo. Ça a lieu à 17h. Et le 10 mars à 14h, c'est le vernissage à l'exposition Le Souffle Déco d'Alain Lefort. C'est présenté à la galerie La Certe. Si vous préférez plutôt aller discuter mode et apparence, ben, vous pouvez toujours faire la visite spéciale avec la co-commissaire Esther Trépanier au Musée national des beaux-arts. Elle fait une visite sur l'exposition mode et apparence dans l'art québécois. Sur ce, c'est déjà à la fin de l'émission. Je remercie Jacques Gignac, les invités, les collaborateurs et je vous laisse avec Yannick Tremblay sur les ondes de CKRL.